Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Fukushima, et surtout de voir, comme on disait, comment en sortir, donc les alternatives qui existent à l'électricité nucléaire. Donc, bonjour.
Bonjour.
Donc je propose qu'on commence un peu par présenter le réseau Sortir du Nucléaire, qui est assez vaste et varié.
Alors donc, on va déjà parler de notre association locale, qui s'est appelée Comité Malville, qui a été fondée dans les années 70, qui a changé de nom, qui est devenu Rhône-Alpes Sortir du Nucléaire, en 1996, lorsque Dominique Voynet a obtenu l'arrêt du surgénérateur Superphénix à Malville.
Donc c'était local, parce qu'en fait, c'était rappelons local, que Crémalville, c'est dans l'Isère. Donc
c'est dans l'Isère, c'était une association locale, mais qui couvrait la région, quoi, où il y avait un certain nombre de membres. Et en 96, les différents groupes antinucléaires, notamment le comité Malville, ont fait des actions en commun et se sont dit on pourrait créer une fédération, et donc le réseau Sortir du Nucléaire est une fédération d'associations qui regroupe 930 associations, dont dans le mandat il y a l'opposition au nucléaire, mais dans ces associations il y a des associations comme SDN Buget, SDN Sortir du Nucléaire 38, oui. Et tout ça, et puis Rhône-Alpes Sortir du Nucléaire, où on est que contre le nucléaire et pour les énergies renouvelables, enfin pour une alternative. Et il y a d'autres associations comme Greenpeace, comme les Amis de la Terre, comme la Frappe Nord, qui elles ont un champ d'activité beaucoup plus important, mais qui sont dans le réseau parce que dans leur champ d'activité il y a aussi l'opposition au nucléaire.
Et donc beaucoup d'associations environnementales, je regarde un peu sur le site, ça, c'est assez varié, il y a même juste des épiceries solidaires, tous ceux qui s'intéressent aussi un peu au cadre de vie.
Tout à fait, c'est vraiment très varié. Comme,
et à la militance environnementale.
Voilà, tout à fait. Donc c'est bon pour se présenter. Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse un historique peut-être du nucléaire pour voir déjà se situer
dans... Je disais qu'on pouvait peut-être dire quels étaient les modes d'action aussi que vous pouvez avoir, ou les projets, quelle façon vous avez de...
Alors au niveau du local, donc nous, nos modes d'action, c'est l'information, c'est donc des soirées débats, c'est la participation ou l'organisation de manifestations. C'est comme ça va se passer le 4 juillet, des actions rond-point. Donc c'est un peu le groupe du Buget qui est né juste au moment de Fukushima. C'est pas Fukushima qui a créé la création du groupe du Buget, puisqu'on nous avait demandé, nous, Rhône-Alpes Nucléaire, de faire une formation pour des gens qui voulaient se remettre contre le nucléaire quelques mois avant Fukushima. Et ils ont recréé le SDN Buget, et eux ont pris un certain nombre d'actions qui sont les actions rond-point, c'est-à-dire qu'ils font à quelques personnes en communes en blanche, pour qu'on voit pourquoi ils sont là, avec des pancartes, se mettent pendant quelques heures le samedi dans des ronds-points pour dire aux gens, vous êtes à 15 km d'un site nucléaire et qui représente un danger, et on a eu Tchernobyl, on a eu Fukushima, peut-être qu'on aura le Buget qui va créer un énorme accident, donc pour sensibiliser les gens. Et donc ça, c'est vraiment l'aspect manifestation, sensibiliser le public.
Il y a aussi beaucoup de choses qui se font quand il y a des transports aussi.
Alors sur le transport, il y a une surveillance des transports et une publication, et notamment au niveau des trains, bon, un peu moins maintenant, parce que après, le problème c'est que les gens qui bloquent des trains sont inculpés, passent au tribunal, souvent n'ont pas de peine, mais s'il y a une récidive sur le même type d'action, ils risquent gros, donc après, bon, ça limite les actions, quoi. Mais on a bloqué pendant un certain nombre d'années les trains qui repartent en Allemagne, parce que l'Allemagne nous envoyait ses combustibles usés à retraités, et on leur retournait les combustibles usés retraités, donc ça voyageait par train entre la France et l'Allemagne, sur des voies de chemin de fer normales, sans que le public autour soit particulièrement informé. Alors, au niveau du transport, il y a aussi un autre transport qui est vraiment important, c'est on reçoit le minerai d'uranium en France, dans le sud de la France, on l'enrichit, enfin on le transforme et on l'enrichit, mais ensuite, lorsque ce combustible est usé, on l'envoie à La Hague en Normandie, et il revient de La Hague par camion à Cadarache, dans le sud de la France, donc il traverse toute la France, pour en faire du combustible. C'est-à-dire qu'on trie, on isole le plutonium, on le ramène à Cadarache pour refaire les barques combustibles pour 18 réacteurs en France. C'est-à-dire qu'on fait des milliers de kilomètres avec des camions qui contiennent des conteneurs où il y a 2 kilos de plutonium dans chacun d'eux. Il faut savoir qu'en cas d'accident, avec 1 mg de plutonium, vous avez une mort certaine des personnes qui l'absorbent. Donc c'est un produit radioactif, pas naturel, puisque sa demi-période de vie est de 21 000 ans. Ça veut dire qu'au bout de 30 fois 21 000 ans, il n'y a pratiquement plus rien. Et comme la Terre a 4 milliards d'années, il n'en existait plus avant qu'on remette en route le nucléaire en France. Enfin, en France ou dans le monde. Et on transporte ces produits dans toute la France. On passe notamment à un endroit, un pont qui fait 80 mètres de haut. Or, les conteneurs sont garantis pour une chute de 40 mètres. On se dit, si jamais le camion ou un des camions chutait sur ce pont, on pourrait très bien avoir une contamination extrêmement grave de l'environnement près de ce pont, et peut-être sur des milliers de kilomètres. Donc on est vraiment sur des situations extrêmement complexes et dangereuses.
Surtout qu'on peut imaginer que ces camions pourraient être sous escorte pour éviter des problèmes, mais qu'on n'a pas trop envie de voir et de savoir que ces transports sont des matières radioactives. Il y a aussi la question d'être discret, j'imagine.
C'est indiqué sur les camions, puisqu'un camion qui transporte des produits radioactifs, qu'ils soient usés ou pas, il y a des signes sur le camion, on le sait. Par contre, il n'y a jamais d'escorte, parce qu'on pense que si on publie les heures de voyage de ces éléments, il y a des risques de terrorisme. Mais faut pas oublier qu'à Chalon-sur-Saône, il y a 3 ou 4 ans, Greenpeace est arrivé à entourer le camion qui s'est arrêté à un arrêt d'autoroute de banderoles pour dire on l'a capturé, quoi. Donc on voit bien qu'il y a un danger réel et que si à la place de membres de Greenpeace qui n'avaient aucune intention malfaisante, mais juste de démontrer qu'on pouvait l'isoler, ça avait été des terroristes, on aurait eu un gros problème.
Justement, tout à l'heure, on parlait de certains militants qui peuvent, en bloquant des convois, être tombés sur le coup de la justice. Est-ce que aussi dans le réseau, vous êtes un peu équipés pour faire du plaidoyer, pour défendre juridiquement des militants qui seraient...
On est équipés. Lorsqu'il y a un problème juridique, que quelqu'un est inculpé, qui a une peine importante ou une peine souvent monétaire, on fait des quêtes pour financer ces éléments. C'est vrai qu'une association comme Greenpeace est plus armée. Mais dès que les membres de Greenpeace, parce qu'on travaille beaucoup avec eux, et notamment à Lyon, il y a pas mal de gens qui étaient activistes chez Greenpeace, qui a une fonction, c'est toujours du bénévolat, mais c'est qu'ils ont été formés, et ils vont sur le terrain, sur des éléments où il y a un risque juridique, mais dès qu'ils sont condamnés avec sursis sur un élément, ils ne pourront plus faire aucune action où il y a un risque de récidive pour éviter que ces gens-là aillent en prison, parce qu'on peut toujours, Greenpeace ou le réseau peut payer les amendes, en faisant une collecte, mais par contre la prison c'est toujours la personne qui est inculpée qui la fera. Donc là, il y a vraiment une volonté de faire attention à ça, parce que être militant et passer 6 mois en prison, c'est quand même pas évident, quoi. C'est une application qui est vraiment énorme. Alors, on arrive dans des domaines où ça demande un courage important et ça peut être remettre en cause la situation professionnelle des personnes, donc c'est quand même à éviter, quoi.
D'où l'intérêt aussi d'être le plus nombreux possible, voilà. Pour soutenir... Pour faire front et pour aussi.
Ouais, mais par contre, Greenpeace, en formant des activistes ou le réseau, fait attention justement de que les gens qui interviennent dans ce type d'action soient formés et connaissent leurs risques pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est quelque chose qui est important. Il y a toujours des gens qui sont pas très formés qui viennent dedans. Et c'est un risque là où il y a des confusions de choses et après être condamné, bon, c'est quand même quelque chose qui est pas super marrant, quoi. Donc il y a vraiment dans l'action, il y a aussi des précautions à prendre pour encourir le moins de risques juridiques, quoi. Essayer d'être visible du public, d'être visible des autorités, mais ne pas encourir trop de risques, quoi, parce que ça coûte.
Oui.
Le budget juridique du réseau ou de Greenpeace sont importants, quoi.
D'accord. Et qui, justement, ça marche avec des appels aux dons, en cas de coup dur.
Alors Greenpeace a moins de problèmes parce qu'ils ont quand même une collecte financière beaucoup plus importante, mais même, il faut quand même prévoir qu'il y a un budget prévu chaque année pour l'aide juridique, pour payer des avocats, pour défendre des gens qui militent, quoi.
Et par exemple, Renaissance sans nucléaire, il n'y a pas de subvention.
Si vous voulez, le réseau Sortir du nucléaire est une fédération, donc chacune des associations a un appel de cotisation qui n'est pas très élevé. On nous demande 100 euros, puis si on peut plus... pour financer le réseau, mais le financement par les cotisations des 930 associations qui sont dedans, c'est une petite partie du réseau. Il y a aussi un appel au public qui est importante, ou même le réseau a donc 930 associations, mais a aussi 22 000 membres individuels qui sont donc cotisants au réseau, qui permettent de financer le réseau. Puis après, il y a des appels financiers une fois ou deux par an, sur des thèmes particuliers pour arriver à financer le réseau, quoi. Ou sur une action très particulière, bon, on fera un appel sur un élément. Par contre, nous, en tant qu'association locale, on a un tout petit budget, on a un budget de 1000 euros par an, mais si on organise un car, par exemple, pour monter à Flamanville, ou en Lorraine, eh ben, on va faire un appel. On va dire aux gens, on vous demande l'échec tout de suite pour que nous on soit sûr de couvrir le coût du car au moment où il part, quoi. Et là, la dernière fois où on a fait une manifestation, qui était pour Paris, avec Europe Écologie Les Verts, eux ils ont pu organiser un car, ou même deux cars je crois, et nous on a abandonné le nôtre et on a fini de remplir le leur. On a été gênés par rapport, enfin on l'a fait un mois à l'avance auprès de la compagnie de car, pour leur dire non, on n'arrivera pas à couvrir le coût, donc on laisse tomber, et parce qu'on peut pas se permettre d'avoir un quart à remplir aux trois quarts, on n'arrivera pas à financer nous, quoi. Parce qu'on essaie aussi de pas demander plus que leur part à chacun des gens, mais enfin, il n'y a pas de problème là-dessus particulier, mais c'est quand même, on travaille sur un tout petit budget, et quand il y a un besoin particulier, on fait un appel, quoi. Et surtout par les gens intéressés. Mais il y a toujours des gens qui sont des militants, qui sont parfois âgés ou qui sont empêchés de faire la manifestation et qui disent, moi je paye ma part, mais je serai pas là, donc il y aura une place de libre, mais je paye ma part pour participer au financement du car. Parce que, en fait, le gros des frais, c'est quand même le financement du car. Après, l'affichage, tout ça, c'est autre chose. On voit avec le réseau, on rachète au réseau des affiches, des trucs comme ça. C'est autre chose. Mais les cars, pour nous, c'est les plus gros budgets quand on a besoin d'argent, quoi.
Je propose qu'on passe un peu au vif du sujet, donc avec la situation du nucléaire, donc un petit peu en France et dans le monde, et ses évolutions suite à l'accident de Fukushima en 2011, donc il y a 4 ans.
D'accord. Alors, le nucléaire, bon, c'est une énergie que la fission a été découverte en 1938, un peu par hasard, mais dès la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé cette fission pour faire la bombe atomique. Et après, la France a voulu avoir sa bombe atomique. Or, donc uranium lourd, enfin uranium, qu'on éclate et qui crée de l'énergie. Et donc en 1965, le général de Gaulle a eu sa bombe. Et on avait créé une filière graphite-gaz pour les réacteurs, donc une filière de réacteurs graphite-gaz. Et en 1974, lorsqu'il y a eu la première crise pétrolière, le commissariat à l'énergie atomique français a dit à M. Pierre Messmer, qui était Premier ministre à l'époque, donc la fin du mandat de M. Pompidou, on devrait développer le nucléaire pour répondre aux besoins et pour ne plus avoir besoin de pétrole. Et M. Messmer a accepté cet élément, et maintenant, on a à l'heure actuelle 58 réacteurs, on a un parc de 58 réacteurs qui sont en activité, bon, on en a une vingtaine qui sont plus en activité. Ces réacteurs nous permettent de couvrir 74% de l'électricité en France, c'est-à-dire, il faut bien le comprendre, 17% de l'énergie consommée en France. Parce que l'électricité...
Il n'y a pas que l'énergie.
L'électricité, c'est 22% de l'électricité consommée en France. Donc, il faut bien voir que le nucléaire, ce n'est que 17% de l'énergie consommée en France.
Et les autres types d'énergie qui sont consommés, donc
c'est gros le pétrole. En gros, le pétrole et
donc,
un peu de charbon.
C'est-à-dire tout, c'est-à-dire le fait qu'une voiture consomme de l'énergie.
Tout à fait. D'accord. Le global de l'énergie consommée en France, l'électricité, c'est que 22% et le nucléaire que 17%. Donc, là-dessus, on est quand même un pays très particulier, puisque le gros de notre énergie électrique est produite par le nucléaire. Alors que dans le monde, on a 58 réacteurs en France, on a eu jusqu'à, en 2010, jusqu'à 437 réacteurs dans le monde, qui étaient en activité. Bon, on est descendu à 380 parce que maintenant les réacteurs japonais ne sont plus en activité. Et puis il y a un certain nombre de réacteurs en Allemagne qui ne sont plus en activité non plus. Au niveau puissance, pour voir quand même, pour se rendre compte, on est monté avec le nucléaire jusqu'à 17% de l'électricité consommée dans le monde. En 1995, donc la pointe de production du nucléaire, c'était 1995. Et ça s'est mis à descendre peu à peu, parce que des pays comme l'Allemagne ont pris d'autres résolutions énergétiques.
D'accord,
parce...
l'Allemagne, il n'y a pas eu que Fukushima, il y avait déjà eu des décisions
bien avant, antérieures. Bien avant, ça fait 20 ans qu'on s'est orienté en Allemagne vers les énergies renouvelables. C'est pour ça qu'ils sont vraiment en avance sur nous.
Donc la France a vraiment fait un choix particulier, bon, je pense géopolitique pour des raisons d'autonomie.
Oui, et puis surtout, la France a toujours été très jacobine, puisqu'on a voulu Concorde, on veut toujours des gros trucs qui sont gros, qui sont centralisés. Et donc au niveau mondial, par contre, on a été jusqu'à 17% de l'énergie électrique. Donc je parle bien de l'énergie électrique venant du nucléaire. Et maintenant, en 2015, on est retombé à 10%. Et 10% de l'énergie électrique faite par le nucléaire, c'est 2% de l'énergie globale consommée dans le monde faite par le nucléaire. Donc c'est pas non plus un élément extrêmement important. Donc déjà, juste par cela... Si on nous parle du nucléaire pour répondre au problème de l'augmentation des gaz à effet de serre, on est carrément hors jeu, parce que c'est pas avec 2%, même si on double le nucléaire, qu'on passe à 4%, ce qui est impossible mécaniquement, mais même si on faisait ça, ça n'aura que très peu d'incidence sur le réchauffement de la planète. Donc on va pas parler du réchauffement de la planète, enfin du nucléaire comme une solution. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que le nucléaire, donc, il vieillit en France. Et il faudra aussi penser à le remplacer. Donc on reviendra ça dessus.
Et j'imagine que ce problème se pose également dans d'autres pays qui ont
Il y a beaucoup de réacteurs qui sont très vieux, puisqu'en aux États-Unis, aucun réacteur n'a été fabriqué depuis Fremont Island en 1979, où là, il y a eu 250 000 personnes qui ont été déplacées, qui sont revenues sur le lieu après. Il n'y a pas eu d'explosion atomique dans ce réacteur, mais ils ont craint une explosion extrêmement importante au niveau de l'hydrogène, puisqu'à l'époque, bon, on maîtrisait pas ça, mais quand vous échauffez un corps quelconque, un organisme, une grosse usine, eh ben, l'eau se décompose en oxygène qui va oxyder les métaux, et en hydrogène qui devient libre dans l'air. Et l'hydrogène, si on dépasse 4% dans l'air, n'importe quelle étincelle, ça explose, et c'est une explosion chimique, mais extrêmement importante, qui peut détruire un réacteur nucléaire, et donc après le faire sauter au niveau nucléaire, quoi.
Donc cette question du vieillissement, c'est un moment, ça veut dire, est-ce qu'on alors, on peut pas continuer, donc on démantèle, ou est-ce qu'on les remplace?
Alors, voilà. Ce qu'on veut dire, c'est que quand on nous dit la politique française, est-ce qu'on peut changer de politique? Alors je pense qu'on reviendra dessus après, parce que je vous ai peut-être pas deux, trois dangers avant, mais on reviendra dessus. C'est quand on nous dit, si on veut remplacer le nucléaire par autre chose, on va être obligé d'investir beaucoup. Mais si on veut remplacer le nucléaire par du nucléaire, si on veut continuer dans le nucléaire, il faut aussi réinvestir. Parce qu'à l'heure actuelle, sur 58 réacteurs, 34 ont plus de 30 ans. 30 ans, c'était la durée de vie normale à la conception du réacteur. Ça veut dire qu'on a plus que 24 réacteurs qui sont dans les normes. Et très vite, en 2025, on aura plus que 14 réacteurs qui sont encore moins de 30 ans. Donc on est vraiment dans une situation où si on veut continuer le nucléaire, on sera obligé de réinvestir énormément dans le nucléaire. Donc on reviendra dessus peut-être après quand on parle des alternatives. Je voudrais quand même rappeler aussi que le nucléaire, c'est une pollution en cas d'accident. Donc on va pas s'étendre trop, mais tous les spécialistes nous disaient qu'un réacteur a une chance sur 10 millions d'avoir un accident grave tous les ans. C'est de la statistique, mais qui est importante pour que les gouvernements acceptent de construire des réacteurs nucléaires. Ça veut dire qu'avec un parc de 437 réacteurs au plus haut et une durée de vie de 30 ans, on n'aurait dû avoir qu'un accident tous les 800 ans, en statistique. Et quand on regarde la réalité, ça fait environ 42 ans que le nucléaire est utilisé au niveau industriel, depuis la crise pétrolière de 1974, 41-42 ans. Et en 41 ans, on a eu 6 accidents très graves. Donc ça fait un tous les 7 ans. Donc là, on est vraiment dans une situation où, à l'heure actuelle, en moyenne, tous les 7 ans, on a un accident très grave en nucléaire. Alors bien sûr, Fukushima, c'est 4 réacteurs qui ont explosé à la fois. Mais c'est quand même 4 réacteurs, quoi. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation où il y a une crainte au niveau du danger et d'un accident grave. Et cet accident grave aurait très bien pu arriver au Blayais. Donc le Blayais, c'est dans la Gironde, c'est où il y a la centrale de la Gironde, où il y a deux réacteurs. Et en hiver de 1999, le 26 ou 27 décembre, je ne me rappelle plus bien, lors de la tempête, on a eu une inondation, tous les sous-sols de la centrale ont été inondés, il y avait 50 cm d'eau, et une des lignes à haute tension qui évacue l'énergie produite par les réacteurs, les deux réacteurs, a été couchée par terre. Ça veut dire qu'il ne restait plus qu'une. C'est-à-dire que si la seconde avait été couchée, on n'aura plus pu évacuer la puissance. Quand vous avez un réacteur de 900 mégawatts qui alimente environ 500 000 personnes, c'est pas comme quand vous arrêtez le gaz de la cuisinière. Il faut après refroidir, même quand on arrête le réacteur, il va pas se mettre à froid tout de suite. Il faut, pendant 5-6 jours, le refroidir. Et si on peut plus le refroidir, mais il allait exploser. On aurait pu avoir Tchernobyl ou Fukushima en France.
C'est un peu le même problème de Fukushima. C'est-à-dire qu'on n'avait plus d'électricité pour permettre de refroidir.
Voilà, c'est ça. On n'a plus d'électricité et puis les circuits de refroidissement ont été endommagés. On n'a plus pu refroidir les réacteurs. Donc, il y a le corium, c'est le centre du réacteur, qui se met à fondre, qui se rassemble. Et on a des masses critiques qui se font par-ci par-là. Et chaque fois qu'il y a une masse critique, il y a une explosion. Quoi. Et donc, ça fait une émission de produits radioactifs extrêmement importante. Donc, là, on a ce premier risque. Deuxième risque, on a quand même aussi le combustible. En France, il nous faut environ 12 000 tonnes d'uranium pour alimenter nos 58 réacteurs. Et dans ces 12 000 tonnes, on a par exemple 3 000 tonnes qui sont produites au Niger, mais dans des conditions extrêmement scandaleuses. En 2003, donc il y a maintenant 12 ans, la CRIRAD s'est rendue sur les lieux. Donc CRIRAD, c'est la Commission de Recherche d'Information Indépendante sur la Radioactivité.
Qui est dans la Drôme, d'ailleurs.
Qui est dans la Drôme, qui a été fondée en 86 par... Michel Rivasi, qui est député européen maintenant, et Roland Desbordes, qui est ingénieur en physique nucléaire et qui est président d'honneur de la CRIRAD. Donc, et cette association a voulu rentrer au Niger avec tout le matériel qu'il fallait. Ils avaient les autorisations et on les a laissés rentrer au Niger, mais on leur a tout piqué le matériel. Ils ont pu garder qu'un contingent en planqué.
Sachant que la CRIRAD, c'est particulier, c'est une association militante, mais c'est aussi une association experte qui peut faire des mesures.
Tout à fait. Alors, je l'ai pas précisé et vous faites bien de me le dire, c'est que la CRIRAD n'est pas pour ou contre le nucléaire. C'est un bureau d'études. Alors, il y a une partie associative où il y a 5000 membres qui permettent de financer cet élément pour des études particulières. Mais à côté de ça, c'est un bureau d'études reconnu, agréé, et qui peut faire des rapports et qui peut les déposer au niveau de l'État, comme d'autres organismes. Quoi. Donc,
et eux, quand je dis militante, c'est militante surtout sur la transparence et sur l'information.
Sur la transparence, tout à fait. Mm-hmm. Alors, je ferai une petite parenthèse. Par exemple, la CRIRAD mène une action à l'heure actuelle pour que les aliments contaminés dans les zones où il y a eu un accident, par exemple en Ukraine, en Biélorussie ou en Russie, près de Kiev, enfin près de Prépia, quoi, la ville où il y a eu l'explosion, on ne puisse pas vendre au grand public ces aliments irradiés, ou comme au Japon, pour ne pas créer de crise économique. Parce que dès qu'on commence à dire s'il y a moins de 100 grammes d'uranium par kilo de matière, on peut les vendre au grand public, c'est-à-dire qu'on expose le grand public à une radioactivité dont ils ne seront pas au courant. Et là-dessus, il y a des pétitions, et je conseille les auditeurs à aller voir sur le site de la CRIRAD, donc CRIIRAD, pour signer cette pétition, pour dire on ne veut surtout pas que l'Europe accepte que l'on mette sur le marché des aliments irradiés pour, soi-disant, aider économiquement les zones irradiées. Quoi. Parce que là, on est quand même, on retombe dans une chose qui est scandaleuse.
Sur des remèdes qui sont...
Voilà, c'est l'hygiène qui tue, quoi. Donc c'est l'hygiène économique qui tue le reste, quoi. Donc je disais, j'étais parti sur la CRIRAD, donc les mines d'uranium. Donc les mines d'uranium, il faut quand même savoir que pour avoir les 3000 tonnes d'uranium au Niger, on a besoin de 160 000 tonnes de charbon pour faire marcher la centrale électrique qui est à côté de mon charbon. On a besoin de 12 000 tonnes d'explosifs. On a besoin de plusieurs milliers de tonnes d'acide sulfurique. On a besoin de plus d'un million de mètres cubes d'eau chaque année. C'est-à-dire qu'on épuise les ressources en eau d'un pays comme le Niger, où les nappes phréatiques sont des nappes fossiles qui se réalimentent, mais très très lentement, pour créer notre énergie chez nous. Et on laisse un état chez eux. Il y a par exemple un stérile qui contient les boues et l'ensemble des éléments radioactifs hors uranium sur 60 hectares et 25 mètres de haut. Et de ce tas coule le radon, qui est un gaz radioactif extrêmement dangereux, qui est un gaz donc qui coule, qui s'en va et qui va sur les plaines à côté. Quoi. Donc on a vraiment un approvisionnement en combustible qui met en danger des gens dans un autre pays. Alors, on a aussi en France des mines d'uranium. Par exemple, la ville de Limoges, il y a eu des mines qui ont été créées en amont de Limoges, enfin dans des montagnes. On a fait des mines à l'air libre. Et puis, quand on a arrêté d'exploiter ces mines, c'était des trous, donc ils se sont remplis d'eau. Puis, quand l'eau monte au niveau des montagnes aux alentours, ça crée un torrent. Et un des torrents se déverse dans l'étendue d'eau qui sert à alimenter la ville de Limoges en eau potable. Et il y a eu un gros scandale en 2009. l'endroit est Areva, donc on nettoyait ces éléments d'eau radioactive qui arrivaient.
Et cette ancienne mine, elle n'était pas surveillée, il n'y avait pas des mesures.
Elle s'est remplie d'eau, puis après l'eau radioactive a coulé, quoi. C'est pas des nappes, hein, c'est des étangs, d'immenses étendues d'eau qui servent à alimenter Limoges. Et là, ils ont nettoyé donc les boues irradiées pour les balancer dans la campagne un peu plus loin, mais ils n'ont pas détourné le torrent qui déverse la radioactivité dans cette zone. Donc ça veut dire que dans quelques années, on va de nouveau avoir de la radioactivité dans l'eau courante à Limoges. On est vraiment dans une situation qui est scandaleuse, quoi. On nous dit rien, la radioactivité c'est quelque chose qu'on ne peut pas déceler si on n'a pas le matériel pour, donc personne ne peut le sentir, l'écouter, non, il faut du matériel pour, le compteur GGR ou d'autres éléments, et c'est quand même pas, ça s'utilise pas comme ça si on n'est pas au courant, donc ça veut dire qu'on contamine des gens pour des mines qui ont été fermées il y a plus de 10 ans, 15 ans.
Et c'est aussi le souci, même aussi pour les... Si on arrête le nucléaire, il y aura aussi...
Il y aura toujours des déchets.
Des établissements démantelés. Alors, parce que quand on parlait de réinvestir...
On va partir ouais. Au niveau des déchets, il y a les déchets des mines. Donc ça, c'est un problème important en France. Malheureusement, Areva va faire faillite. Donc ça va pas être très bien parce qu'il y aura plus de finances pour les isoler. Après, il y a tout ce qui est au niveau de l'enrichissement parce que dans les réacteurs PW, réacteurs à eau pressurisée qu'on utilise maintenant sous la licence Westinghouse, la licence américaine. Pour le moment, on n'a que des licences américaines. On n'a aucune licence française comme activité. On enrichit l'uranium est composé à 99,3% d'uranium-238. Qui est un produit qu'on peut transformer en plutonium et donc en combustible, mais qui n'est pas par lui-même combustible. Et on a 0,7% d'uranium-235 qui est combustible, donc qui est fissile. Et pour faire marcher les réacteurs à eau pressurisée, il faut qu'on monte ce taux à 3,5%. Ça veut dire qu'en fait, on enlève beaucoup d'uranium-238, qu'on stocke, et qui est un produit dangereux, parce que l'uranium-238 a 14 descendants radioactifs avant d'arriver au plomb-210, et ces éléments radioactifs, certains ont des demi-durées de vie de 250 000 ans, mais d'autres de 3 jours. Et en fait, dès qu'on dépose de l'uranium-238, qu'on a enlevé de l'enrichissement quelque part, dans les quelques mois qui suivent, on a 14 éléments dans la masse radioactifs, donc la radioactivité a été multipliée par énormément avec le temps. Parce que chaque fois qu'on a de l'uranium, il produit les descendants. Au bout de quelques mois, on a les 14 descendants, et c'est très radioactif.
On
les stocke n'importe où. C'est ça, le problème. C'est qu'on en a même envoyé en Russie, dans des zones, dans des conteneurs, et il y a des zones en Russie où on a envoyé des bateaux pour poser sur des sites des centaines de fûts contenant de l'uranium-238. Mais le problème, c'est qu'un fût en métal... Il est garanti de 300 ans, des fois 600 ans quand c'est des fûts vitrifiés et tout ça. Mais que la demi-période de vie de l'uranium-238, c'est 4,5 milliards d'années. C'est-à-dire qu'on a divisé par deux la masse d'uranium-238 depuis le début que la Terre existe. Et quand la Terre disparaîtra, dans 4-5 milliards d'années, il y en aura encore la moitié de ce qu'il y a maintenant. Donc ça veut dire que c'est un produit radioactif qui existera toujours, qui ne disparaîtra jamais. Même si on dit... peu à peu, ça diminue, mais ça diminuera tellement peu. Et dès qu'on a de l'uranium-238 qui crée ses descendants, on fait tous les descendants. On a toujours tous les descendants présents. Même si certains des descendants ont une demi-durée de vie de 3 jours, comme le radon, le gaz, il est tout sans arrêt reproduit par l'ascendant. Donc il faut bien être conscient que quand on a de l'uranium, on a toujours tous les descendants. Donc ça aussi, c'est un problème. Et au niveau des déchets, il y a les déchets des combustibles. Alors, c'est ça dont on parle beaucoup. Les déchets des combustibles, donc il faut juste une précision. Un combustible neuf est beaucoup moins radioactif qu'un combustible usé. À l'origine, on a peut-être du plutonium, si c'est un des 18 réacteurs qui marche avec, ou de l'uranium-235. Mais quand ça sort, on a de l'iode-131, du césium-137, qui sont des produits extrêmement dangereux, émetteurs gamma souvent. Et parce que le noyau d'uranium se décompose en deux noyaux, un de 80 grammes, un de 130 grammes, et ça veut dire qu'on a beaucoup plus de radioactivité dans un combustible usé que dans un combustible neuf.
C'est-à-dire qu'il faut plus s'inquiéter de ce qui sort de la centrale, de ce qui y arrive.
Et ça, faut le dire, parce qu'on nous dit combustible usé, non, c'est pas comme du charbon usé, c'est pas de la cendre, c'est vraiment un truc très dangereux. Et là, on en a de plus en plus, et le projet, c'est d'enfouir cela à Bure. Donc Bure, c'est un petit village à mi-chemin entre Strasbourg et Paris, dans un lieu avec une petite densité de population, sauf ce qu'on a oublié de dire, c'est que l'ANDRA, l'Agence nationale des déchets radioactifs, n'a pas publié le fait qu'il y avait des possibilités de géothermie en profondeur à cet endroit-là. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on nous dit que c'est garanti que c'était un argile très stable et qu'on pense que c'est garanti pendant des milliers d'années. Alors, pour douter de cela, c'est que c'est stable quand il n'y a que de l'argile, mais dès qu'on amène des métaux, des soufres et autres éléments, ça déstabilise le lieu. Et on peut remarquer comme exemple de déstabilisation d'un lieu, c'est les mines de sel d'Assé en Allemagne. C'est des mines de sel qui n'étaient plus exploitées. Donc les géologues allemands ont dit, on garantit que ce site sera stable pendant au moins 75 000 ans. Donc on peut mettre dedans les conteneurs de déchets radioactifs. Et moins de 25 ans après la fin de la dépose des conteneurs, le fait d'amener des bulldozers avec émission de gaz carbonique, de gaz de soufre et autres éléments, il y a des fissures, il y a de l'eau qui se produit, et cette mine d'Assé est en train de s'effondrer. Et c'est un problème énorme. Donc on voit que quand on dit un lieu est stable dans sa condition actuelle, mais dès qu'on amène des corps étrangers, il perd sa stabilité.
Oui, il perd les conditions dans lesquelles
Et rien ne nous prouve que dans 500 ans, ou même 5000 ans, parce que 5000 ans, je pense qu'il y aura encore des êtres humains sur Terre, on n'ait pas des fuites de radioactivité sur Bure, et que les nappes phréatiques qui desservent Paris, qui s'alimentent entre autres sur la Marne, ne soient pas contaminées. Donc, et si on s'intéresse plus au nucléaire pendant 1000 ans, plus personne ne saura ce que c'est. Et il y aura peut-être un jour des choses extrêmement désagréables pour la population mondiale. Quoi.
On découvrira.
Donc les déchets, c'est vraiment pas simple. C'est au niveau des mines, au niveau de l'enrichissement, au niveau des combustibles. Puis après, il faut aussi démanteler les centrales. Démanteler les centrales, ça doit être fait. Que l'on arrête le nucléaire ou que l'on n'arrête pas le nucléaire. C'est pas le fait d'arrêter le nucléaire qui dit qu'il faut démanteler les centrales, c'est on a construit les centrales en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, on a pris la responsabilité de savoir les démanteler. Et donc là, on sait pas encore faire. Aucune centrale, sauf une aux États-Unis, a été démantelée, mais on l'a explosée.
Est-ce qu'on en connaît une qui est allée jusqu'au bout?
Il y en a une seule aux États-Unis, mais on l'a fait exploser, mais alors là, c'est, enfin, imploser, mais là, c'est carrément, il y a un risque de contamination qui est extrêmement important. Autrement, celle qui est le plus avancée, c'est la centrale, en Bretagne, une petite centrale de 70 mégawatts, mais là, on a déjà dépensé des sous énormes et on n'a pas fini de démanteler. C'est-à-dire que le cœur du réacteur n'est pas démantelé. On a démantelé en France aucun cœur de réacteur. On ne sait pas faire. Alors, on a prévu de construire, et c'est en train d'être construit, et ça rentrerait normalement en production, on espère pas, mais en 2017, Iseda, donc près du Bugey, donc à 30 km en amont de Lyon. Donc Iseda, c'est l'installation de confinement et l'entreposage de déchets activés. Donc là, on compte mettre les éléments issus des corps des réacteurs, pas les combustibles, mais tous les aciers, les bétons, tout ce qui servait à construire le corps du réacteur. Et aussi des barres de combustible qui viennent de centrales qui sont plus utilisées au graphite gaz. Et puis un certain nombre de démantèlements de pièces qui viennent de réacteurs en activité, mais principalement 9 réacteurs qu'on va démanteler. Mais ça, c'est très inquiétant parce qu'au départ, on nous disait Iseda n'émettrait pas d'éléments radioactifs, il n'y a pas de raison. Et peu à peu, notamment en 2010, l'ANDRA a dit finalement, on va émettre telle dose de radioactivité, mais c'est beaucoup moins qu'un réacteur. Si on ne prend pas en compte le carbone 14 et l'hydrogène, et le tritium, on émettra moins qu'un réacteur. Mais quand on met avec le carbone 14 et le tritium, on va, Iseda, si elle est en marche comme c'est prévu, émettra 5 fois plus de radioactivité que les 4 réacteurs qui sont à côté. Alors, faut bien quand même se rendre compte.
Est-ce qu'il y a la même protection qu'autour d'un réacteur aussi?
Non, mais ça va être disséminé dans le fleuve, dans le Rhône, dans le Rhône qui alimente Lyon en eau. Alors, faut bien savoir que le carbone 14, c'est comme le carbone 12, le carbone normal, ça a les mêmes propriétés chimiques que nous, on peut absorber du carbone 14 dans notre corps. On aura la radioactivité, mais chimiquement, ça va pas se voir au début. Et le tritium, c'est un isotope de l'hydrogène qui est pareil, qui est dans notre corps, qui est dans tous les organismes vivants. Et donc, il y a un gros risque s'il y a une émission importante de contamination, parce qu'en plus l'hydrogène, qui est le corps le plus petit qui existe dans le monde, c'est un proton, ou quand c'est du tritium, c'est un proton et deux neutrons. On sait pas le filtrer, on sait pas l'arrêter, parce qu'il n'existe aucun corps plus petit qui permette de le filtrer. Donc un conteneur, une bouteille de gaz d'hydrogène, vous pouvez la stocker, mais au bout de, si vous la gardez un an, elle aura perdu une grosse partie de son hydrogène, parce que l'hydrogène étant encore le plus fin, il s'infiltre de partout. Donc ça veut dire que le tritium, on ne peut pas le confiner dans un endroit. Et c'est, il sera émis en vraiment en grosse quantité par ici là, donc il y a un gros risque de contamination des nappes phréatiques qui viennent des bancs de sable qui sont au nord de Lyon, mais qui sont alimentés par le Rhône notamment. Donc il y a vraiment une situation qui est vraiment inquiétante. Donc nous, on milite contre ICEDA. On dit il faut mieux attendre de savoir comment démanteler les réacteurs correctement et démanteler sur place et stocker les projets sur place, plutôt que amener de Bretagne, de tous les coins de France, des déchets venant de ce démantèlement auprès du budget, donc près de Lyon. Quoi.
Je propose quoi ? C'est une petite pause musicale et oui, on se retrouve après.
Maria nasceu elétrica, cresceu 10 em aritmética, mas nunca fez a maior. Pausa para pensar. Casou por justa causa, a causa de casar. Não parou de ter menino, não parou para sonhar. E disse que foi o destino que a fez encontrar. Com a tal de menor, pausa, buscou eu, tentou viver. E morreu de não entender. O que significa a palavra? Escrever.
Pelos poetas alternativos.
Os Poetas Electricos, un groupe brésilien. Electricos, ben, ça rentre tout à fait dans le sujet dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans le grain de sable, avec la question de l'électricité et du nucléaire. Et comment en sortir? Et ben, justement, on parlait de tous les soucis que ça posait, que ce soit à court ou long terme. Donc, et si on arrêtait le nucléaire, on s'y prendrait comment?
Alors, quelle que soit la politique que l'on mène, de toute façon, il faudra remplacer le parc nucléaire actuel. Parce qu'on l'a dit, il y a 58 réacteurs en France, dont 34 ont plus de 30 ans. Et dans 10 ans, il restera plus guère qu'en moins de 30 ans. Donc il faudra les renouveler. Alors, juste pour mettre la situation, les derniers réacteurs mis en route en France ont été en 2002, donc il y a 13 ans. Et le seul réacteur qui est en construction en France, c'est l'EPR à Flamanville. Il aura dû être mis en fonctionnement en 2012, début 2012, avec un coût global de 3,5 milliards. À l'heure actuelle, si un jour il est mis en route, parce qu'il y a énormément de problèmes, on pense qu'il serait peut-être mis en route en fin 2017, c'est-à-dire avec 5 ans de retard, 5 ans et demi de retard, et pour un coût de 8,5 à 9 milliards. Donc on est vraiment dans une situation où on n'est plus capable de construire un réacteur nucléaire qui soit rentable économiquement. Donc,
La France qui était supposée être à la pointe, avec les soucis qu'a eu l'EPR, a un peu perdu de son panache en matière d'expertise.
Oui, quand on nous dit la France espère vendre des réacteurs EPR à l'Afrique du Sud, je vois pas comment un pays comme l'Afrique du Sud puisse s'engager dans l'achat d'un réacteur dont aucun n'est mis en marche, quoi. Donc là, ça sera suicidaire pour eux. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un choix sur comment remplacer notre parc nucléaire maintenant. Donc, on le remplace par du nucléaire ou on le remplace par autre chose. Alors, c'est intéressant parce que en avril 2015, l'ADEME, donc qui est un organisme d'État, mais qui a
donc c'est l'agence de maîtrise de l'énergie.
De maîtrise de l'énergie a sorti un rapport sur la possibilité de faire de l'énergie à 100% renouvelable en 2050, donc sur un plan sur 35 ans, c'est quand même une vue globale qui est intéressante, qui est une réelle politique à long terme. Le ministère de l'Environnement a demandé à l'ADEME de ne pas publier ce rapport. Et heureusement, des gens extérieurs à l'ADEME ont eu connaissance de l'existence de ce rapport. Et donc l'ADEME a été obligée de le publier.
Et si on le cherche, effectivement, on le trouve sur Internet. Mais si on va directement sur le site de l'ADEME, il n'est pas du tout mis en valeur. Il n'est pas présenté dans les publications. Mais bon, on arrive quand même à le trouver et à pouvoir le consulter.
Alors ce qui est intéressant dans ce document de l'ADEME, c'est que l'ADEME dit si on passe à 100% d'énergie renouvelable en 2050, on aura le besoin d'investir 50,4 milliards d'euros pour remplacer le parc actuel de production d'électricité par d'autres éléments de production. Toujours en parlant en prix courant de nos jours.
Donc, en parlant des prix des investissements en matière de réseau,
voilà,
de techniques.
Les techniques. Et si on prend l'option de prendre l'objectif gouvernemental actuel, c'est-à-dire d'avoir 40% de renouvelables en 2050, 50% de nucléaire et les 10% restants étant les appoints en charbon, en pétrole et autres peut-être techniques nouvelles, on aura un coût de 40,5 milliards. C'est-à-dire que au prix d'aujourd'hui, on gagnerait 900 millions. C'est-à-dire 2% du prix. Il faut quand même se rappeler que à l'heure actuelle, le prix d'installation de matériel nucléaire augmente constamment du fait des exigences suite à Fukushima, que le prix des énergies renouvelables au niveau investissement baisse pour la même puissance. Donc on est vraiment dans une situation où si on prend l'objectif de faire du 100% renouvelable en France, on aura un coût bien moindre que celui qui sera si on veut faire du nucléaire. Donc c'est vraiment une situation où l'ADEME nous révèle qu'on peut le faire, on a le droit de le faire, économiquement ça sera rentable. Après c'est une décision politique, c'est chacun d'entre nous qui en votant, mais aussi en se comportant, peut faire influencer ça. Parce que il faut quand même savoir que si on veut réussir ces éléments, il faut aussi appliquer des plans énergétiques tels que ceux qu'ont prononcé négawatt comme négatif du watt, qui sont avant tout la sobriété, c'est ne pas gaspiller, c'est ne pas utiliser une puissance supérieure à celle dont on a besoin, utiliser les réels besoins qu'on a. J'ai besoin de me déplacer de Lyon à un autre endroit. Si c'est à 1 km, je peux envisager de le faire à pied, en vélo, en bus, en voiture. Mon choix, il implique tout à fait une dépense énergétique complètement différente. Donc c'est un choix qui permet la sobriété, c'est de dire toujours prendre le moyen d'avoir un service ou une fonction qu'on veut avec le moins d'énergie possible.
Et dans cette étude, justement, il se pose la question du consommer moins ou consommer différemment avec des appareils intelligents, par exemple.
Il se pose la question, ils prennent en compte l'augmentation de la qualité du matériel. Ils ont aussi dans leur projet, ils prennent en compte le fait qu'on aura 10 millions de voitures qui vont fonctionner à l'électricité. Ce qui n'est pas évident, mais c'est possible aussi. Mais ça veut dire aussi
là
que
aussi c'est politique.
Il y a une grosse décision politique, c'est est-ce que la voiture individuelle dans une ville comme Lyon, parce qu'on est à Lyon nous là, est vraiment indispensable ou est-ce que les transports en commun ne sont pas plus rentables quoi. Mais après c'est une politique que Michel Noir a menée par exemple quand il a fait développer les métros et il a obstrué un certain nombre de routes qui ont donc diminué la surface pour les voitures. Mais il faut vraiment qu'on ait une volonté de dire je peux avoir le même service pour beaucoup moins d'énergie, donc je choisis celui qui fait moins d'énergie. Et si on arrive à avoir une réelle politique de sobriété et d'efficacité énergétique, là on pourra remplacer tout par les énergies renouvelables.
Justement, on a la loi de transition énergétique là qui est sur le feu. Est-ce qu'elle propose justement des aides pour justement cette transition vers autre chose que ce soit.
La transition énergétique est encore assez floue. Enfin, pour moi, elle veut qu'on conserve 50% de l'électricité en nucléaire, mais elle veut qu'on conserve aussi 63 000 mégawatts de puissance. C'est-à-dire, c'est la puissance actuelle. C'est-à-dire qu'elle envisage de garder la puissance actuelle, mais que cette puissance passe de 74% à 50%. Ça veut dire que derrière...
Elle reste productiviste, en fait.
Ouais, voilà. Ça veut dire que derrière, on voit qu'on va augmenter de 30% la consommation d'électricité par les voitures. Et là, c'est très malsain, parce que on va pas du tout diminuer le nucléaire en volume. On va augmenter le volume total, et la part du nucléaire va descendre. Et là, c'est une stratégie suicidaire, parce que, entre autres, on va manquer de pétrole dans 30 ans, mais le minerai d'uranium... On va aussi en manquer. Je ne me suis pas étendu sur Uranim, cette compagnie de mines d'uranium qui a racheté Areva en 2007. Et Areva a aussi racheté cette compagnie de milliards et a mis un milliard pour l'exploitation. Et s'est rendu compte que les mines vendues par cette compagnie ne possédaient pas assez de taux d'uranium assez élevé pour être exploitables. Donc on est vraiment dans une situation où il ne faut pas se tromper. L'uranium, il y en a beaucoup sur Terre, mais dès qu'elle est en dessous d'un taux, elle n'est plus exploitable parce qu'il faut trop d'énergie pour l'extraire.
Et l'énergie, ça veut dire que c'est du CO2. On ne peut pas dire que le nucléaire ne soit pas une énergie fossile ni une énergie décarbonée.
Tout à fait.
En fait.
Tout à fait. Donc on est bien conscient qu'il faut vraiment, si on continue à dépenser l'énergie comme on dépense à l'heure actuelle, on n'y arrivera pas. Et ça, mais quelle que soit la solution qu'on prend, on n'y arrivera pas. Alors on y arrivera peut-être en tant que puissance mondiale connue avec une armée forte, où on ira récupérer les combustibles dans les autres pays, mais c'est pas viable au niveau de la Terre. C'est-à-dire que si nous on est riche et qu'on dépense beaucoup d'énergie, on a quand même des chances que les pays pauvres, les gens qui n'ont pas, qui ne dépensent pas un litre de pétrole par an, se révoltent et viennent envahir notre pays. Quoi. Il y a un petit peu des risques là-dessus.
Le but, c'est pas de se créer le maximum d'ennemis.
Voilà, c'est ça.
Et donc, si on vient à l'étude, est-ce qu'elle parle effectivement des blocages, parce qu'on voit quand même qu'il y a des blocages en matière de développement des énergies renouvelables. On n'est pas forcément, je sais pas si on atteint ou si on en voit d'atteindre les objectifs qui sont affichés.
On est très faible en énergie renouvelable à l'heure actuelle. Par contre, on commence à vraiment démarrer. Et on démarre aussi parce que en 2005, donc un certain nombre de spécialistes de l'énergie et un peu aussi des antinucléaires, on crée une coopérative qui s'appelle Enercoop, qui est une coopérative distributeur d'électricité au même titre que EDF commercial. Et avec Enercoop, on ne distribue que de l'électricité sans charbon, sans gaz, sans pétrole et sans uranium.
Et là, est-ce qu'il y a un label? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui garantit quand on en a
Ah bah nous, on achète l'électricité parce que comme on est comme EDF, on a quelques sites de production, mais encore très faibles parce qu'on vient de naître. EDF a 19 sites nucléaires, mais achète à plus de 25 000 fournisseurs. De petits fournisseurs qui lui vendent du courant. Et nous, on s'alimente. Pour nous, ce qu'on a, c'est que du photovoltaïque et de l'éolienne. Et sur tous nos fournisseurs, c'est que du photovoltaïque, de l'éolienne, de la biomasse, que d'énergie renouvelable. Et si vous choisissez de changer de fournisseur d'électricité, si vous venez chez Enercoop, vous êtes certain que votre électricité viendra, enfin, que ce que vous consommez sera produit en France en énergie renouvelable. Parce qu'on est bien d'accord qu'il y a 14 distributeurs d'électricité en France, mais que tous ces distributeurs, dont EDF Commercial, envoie l'électricité sur le réseau et qu'après, il y a ces RTE et ERDF gèrent la distribution de ce réseau et qu'il y a un comité d'équivalence qui vérifie demi-heure par demi-heure que chacune des 14 compagnies envoie bien ce que consomment ses consommateurs. Et si nous, par exemple, on envoie moins d'électricité pendant une demi-heure que consomment nos consommateurs, on va être pénalisé, on aura un prix qui va doubler, tripler. Donc on a pris la précaution dès le départ d'être toujours à 10% de plus que ce que consomment nos consommateurs.
Mais c'est pas un réseau spécifique, ça.
Ah non, bien sûr. Mais GDF Suez a le même réseau que EDF, a le même réseau que Poveo, parce qu'on peut pas avoir plusieurs réseaux d'électricité. Oui. Mais simplement, c'est chacune des compagnies ou associations ou coopératives ou sociétés doit envoyer demi-heure par demi-heure ce que consomment ses consommateurs. Alors quand on dit ce que consomment ses consommateurs, c'est des statistiques très précises qui sont faites année après année par rapport à la structure du client. C'est un couple avec deux enfants, ben on estime que c'est ça comme consommation, un célibataire c'est ça, enfin, et c'est calculé, c'est remis à jour chaque année, et ça permet ensuite...
Mais ça prend en compte le fait que, par exemple, on va consommer plus d'électricité en hiver pour se chauffer, ou
il y a un peu
des pics...
C'est tout calculé par rapport à la structure de chacun des consommateurs, par rapport à sa consommation annuelle. Mais par rapport
à la production, donc éolien photovoltaïque, on dit souvent que c'est de la production intermittente, dans le sens les éoliennes ne tournent pas tout le temps, il n'y a pas tout le temps du soleil.
C'est intéressant, la question est très bonne. Le nucléaire est une énergie intermittente. C'est-à-dire que quand vous avez un arrêt d'urgence sur Tricastin ou le Bugey, ce qui s'est passé une dizaine de fois dans l'année qui vient de se passer, là, on a de l'intermittence. On était à 900 MW, on passe à zéro. Par contre, pour l'éolienne et le photovoltaïque, on n'est pas intermittent, on est variable. Intermittent, c'est qu'on n'a pas prévu le truc. Variable, c'est qu'on sait très bien que pendant la dernière heure, entre 21h à 22h, à l'heure classique sociale, là, on va avoir une baisse rapide du photovoltaïque, mais on a la courbe, on connaît la courbe. On sait, par rapport au temps qu'il va faire, la météo est maintenant à 3-4 jours près et très précise, on fait les prévisions à 4 jours, on fait les prévisions à une journée, une demi-journée, à quelques heures. C'est pareil pour l'éolienne. On sait très bien le temps qu'il va faire dans 3 jours, dans 2 jours, dans 1 jour.
Donc on stocke pour envoyer le moment où
alors,
ça produit
pas. On sait déjà ce qu'il faut produire, on sait déjà les variations qu'il y aura. C'est pour ça notamment que Enercoop n'a pas de tarif de nuit et de tarif de jour. Parce que le tarif de nuit et le tarif de jour qui ont été installés par EDF, c'est parce que la nuit, les centrales nucléaires, on ne peut pas les arrêter. Elles ont une production rectiligne tout le temps. Et on ne savait pas quoi faire de l'électricité. Donc on a dit aux gens, utilisez votre électricité la nuit. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, alors ensuite, pour réguler nos éléments, on a pas mal de micro-hydrauliques et de mini-hydrauliques. Et puis on a de la biomasse qui sont, eux, plus contrôlables. Et puis au niveau du pays de la France, il faut savoir que pour répondre aux variations journalières de consommation, on a des pointes à 8h du matin et à 17h, les réacteurs nucléaires ne savent pas monter en puissance. Donc on a à l'heure actuelle, en pompage-turbinage, c'est-à-dire en deux sites de stockage d'eau, souvent à 700-800 mètres de différence au niveau vertical, quand il y a un besoin d'énergie, on fait marcher les turbines. Quand on ne sait pas quoi faire de l'énergie, on fait remonter l'eau et on a une capacité environ égale à 7 réacteurs en France.
C'est des mini-barrages en fait,
quand on en a besoin.
C'est
certains barrages comme le barrage de Chambon, sur la Remanche, au sud de Grenoble, a du pompage turbinage. Mais d'autres barrages n'en ont pas, mais il y a des lieux où c'est que des conduites d'eau qu'on fait monter ou descendre pour stocker. Alors, dans l'avenir plus lointain, si on augmente notre part d'énergie renouvelable, on aura déjà la possibilité de stocker l'hydrogène par électrolyse en produisant et puis ensuite d'utiliser cet hydrogène dans des turbines quand on aura besoin on stocke l'hydrogène par électrolyse de l'eau en utilisant le courant, puis quand on a besoin de courant, ben on fait marcher des turbines et on réutilise cet hydrogène. On a aussi la biomasse, donc elle on peut moduler son utilisation, donc la fermentation pas à l'air, donc propre du méthane, qui est un combustible très performant, qu'il faut pas laisser s'échapper dans l'atmosphère, parce que le méthane est 24 fois plus gaz à effet de serre que le
CO2,
mais c'est un très bon combustible, et qui sera transformé en CO2 après combustion, donc on peut l'utiliser. Après, il y a la méthanation aussi, qui est un autre principe, où dans des milieux industriels, on peut récupérer le CO2 et combiner avec l'hydrogène qu'on a par électrolyse, on peut recréer du méthane par des réactions chimiques qui sont conduites depuis 100 ans environ, et on peut avoir à ce niveau-là du stockage. Donc il y a le stockage des barrages, il y a le stockage de la, du pompage turbinage, il y a le stockage de la méthanisation et de la méthanation. Donc c'est tous des éléments qui sont... Et puis il y a d'autres en fait, éléments qui seront peu à peu exploités.
Ce qu'on voit, c'est qu'on multiplie aussi, en fait, ça devient une diversification. Donc s'il y a un problème sur l'un, il y en a d'autres qui existent. Et qu'on...
Tout à
en fait.
Fait,
au niveau technique, on a beaucoup amélioré les possibilités qui existent.
Tout à fait. Et puis si on arrive en France avec un champ éolien important... c'est quand même rare qu'il n'y ait pas de vent dans le nord de la France, qu'on n'est pas dans le sud, qu'on n'est pas nulle part pendant quelques jours.
Justement, est-ce que c'est local, c'est cette production et cette...
Alors, quand on parle d'Enercoop, Enercoop a un objectif de devenir de plus en plus local. Donc, on a créé des...
Oui, parce que l'idée, c'est pas forcément de consommer à Lyon de l'énergie qui a été fabriquée en Normandie.
Mais, en fait, dans l'état actuel des choses, on est bien à ce niveau, quoi. C'est-à-dire qu'on a bien une production sur 19 sites nucléaires. On a 19 sites nucléaires en France qui produisent 74% d'énergie électrique, quoi. Donc, faut bien voir qu'on distribue dans toute la France. Et on importe beaucoup d'Allemagne la journée. On exporte en Espagne et en Italie la nuit. Donc on voit bien que on a des réseaux inter-États qui permettent aussi de compenser le fait qu'on produit de l'électricité par rapport au nucléaire à l'heure actuelle de la nuit. On sait pas quoi en faire. On l'envoie en Espagne et en Italie, qui eux arrêtent leurs turbines à pétrole. Donc on voit bien qu'il faut qu'il y ait quand même un équilibre sur un grand réseau. Puis il faut aussi qu'il y ait une citoyenneté qui devient importante, c'est que si chacun soit conscient que si on peut mettre des avertisseurs à chacun en disant bah, tel jour à telle heure, on sait qu'il y a une pointe de froid importante, on sait qu'on a encore tant de personnes qui chauffent à l'électricité en France, donc déjà mettez des pulls au vert, déjà c'est une bonne solution pour moins consommer, et puis faites pas votre lessive en même temps que vous mettez tous les radiateurs en route, quoi. Il y a aussi un certain nombre de logiques qui seront à faire, mais il n'y a pas...
Le temps passe.
Oui,
j'ai juste une question, c'est la question subsidiaire. Et est-ce que cette électricité, elle coûte plus cher que l'électricité?
Alors, l'électricité fournie par Enercoop est beaucoup moins chère que la moyenne des prix européens, parce que les prix européens sont des prix de marché. Alors, on est encore un peu plus cher que le prix français, qui n'est pas un prix de marché, mais un prix de décret, qui ne représente pas du tout le coût réel de l'électricité. Au 1er janvier 2016, pour les compteurs de plus de 30 kVA, le marché, le prix garanti n'existera plus, parce que c'est pas réel, c'est pas concurrentiel, c'est pas de la vraie concurrence. Et on pense que dans les années à venir, eh ben, il y aura plus de réel de prix subventionné chez EDF, parce que moi, je serais plutôt socialement pour que les ménages les moins fortunés soient aidés, ou alors qu'on ait un prix, par exemple, de 0 à 1000 kWh, on a un prix bas, de 1000 à 2000, on est un peu plus cher, et plus on monte, plus on paye cher le kilowattheure. Ça permettrait d'abord de réduire la consommation et de permettre à chacun d'entre nous, même les plus modestes, d'avoir le minimum de consommation pour la cuisine, pour l'électricité, pour l'éclairage. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est quand même pas tout à fait normal quand on est dans une situation où l'énergie n'est pas illimitée, où plus on consomme, moins on paye l'unité. C'est pas normal.
Les économies d'échelle, comme on dit. Donc on va peut-être terminer avec l'agenda. On a parlé de l'action Rond-Point.
Oui.
Donc le 4 juillet.
Oui, tout à fait. Donc vous pouvez aller sur le site du réseau.
Donc le site de réseau Rhône-Alpes.
Sortie du nucléaire.
Sortie du nucléaire,
oui.
Mm-hmm.
Donc on a au moins 7-8 sites où on va faire cette manifestation autour du budget. Donc nous, on sera sur un croisement sur la Nationale 6, un peu avant la Verpillière, au croisement de la route qui va à Crémieux. Et voilà. Donc, et ça sera le matin à 9h.
Et puis donc on pourra retrouver sur le site d'Attaque et sur le site de Canu l'enregistrement de l'émission, avec également des liens vers justement les sites Sortir du nucléaire, Enercoop, pour en savoir plus. Et on vous dit à dans 2 semaines avec une émission qui sera consacrée à la question de l'eau. Et on vous laisse avec le Canu Info. Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Attaque Rhône. Agir local. Le grain de sable.